Vous êtes sur RTL.
Il est 8h01.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Une colère pour démarrer ce journal. Celle des victimes de l'ex-perprenat à Lyon, condamné en mars dernier à 5 ans de prison ferme. D'anciens scouts abusés dans les années 70-80, en colère face à l'attitude de l'Église, qui avait pourtant promis de les indemniser. Sauf que le diocèse n'est manifestement pas prêt à mettre la main à la poche. Bonjour Anne Le Hennaff.
Bonjour.
Ce sont en réalité les fidèles qui risquent de devoir payer pour les crimes de l'ancien curé.
Ah oui, c'est même assez certain. Si Bernard Prenat ne peut pas payer lui-même, un appel aux dons sera lancé auprès des paroissiens afin de remplir un fonds d'indemnisation spécifique pour verser 10 à 12 000 euros à chaque victime. Ça va prendre quelques mois, mais ce n'est pas tellement ce délai qui ulcère François Deveau, le président de l'association des victimes du prêtre pédophile La Parole Libérée. C'est vraiment le fait que le diocèse ne payera pas directement.
Moi, ce qui me choque le plus, c'est cette façon dont le diocèse de Lyon, l'archevêché, s'exonère de toute responsabilité et se défausse complètement sur la responsabilité de Bernard Prenat. Quand on donne de l'argent à une victime, c'est qu'on porte une responsabilité. On ne file pas de l'argent à des gens comme ça parce qu'on est sympa. Je n'en veux pas de leur argent. Ce que je veux, c'est une démarche intellectuellement honnête, qu'on reconnaisse tout le dysfonctionnement.
Il attend pour cela beaucoup de la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Ses travaux ont été retardés par la pandémie. Elle ne rendra donc son rapport qu'au cours du second semestre 2021.
Merci pour ces explications, Anne Le Hennaff.
Et à 8h20, nous serons avec justement le président de la commission d'enquête sur les abus sexuels dans l'Église, Jean-Marc Sauvé. Il répondra à toutes nos questions et notamment à cette prolongation de 6 mois de son appel à témoignage. RTL 8h03. Et si la Chine était sur le point de connaître une seconde vague de contamination, les autorités prennent la situation très au sérieux.
Alors que les cas de coronavirus se multiplient depuis une semaine à Pékin, la capitale prend ce matin des mesures aussi rapides que spectaculaires. Quartiers bouclés, universités, écoles fermées et interdiction de quitter la ville sans un test de dépistage. Les contrôles de température et les checkpoints ont refait leur apparition. Tout est parti encore une fois d'un marché et c'est une traque géante qui s'est mise en place pour rechercher les malades, comme le raconte cet habitant joint il y a quelques minutes par Patrice Thomas.
Vous savez combien de personnes on est en train de rechercher? Il y a 200 000 personnes qui, à partir du 30 mai, ont côtoyé ce marché. Donc, il faut trouver parmi ces 200 000 personnes s'il y a des contaminés ou pas et où est-ce qu'ils ont été. Est-ce que ça s'est propagé à l'extérieur ou pas? Là, je suis sorti hier. Effectivement, on a repris, donc on a remis les masques. À l'entrée de notre résidence, il y a eu un contrôle de voiture plus une prise de température. C'est la seule voie pour résoudre le problème actuel. C'est ça le plus grand problème d'aujourd'hui. Actuellement, on est effectivement, c'est un très grand point d'interrogation. Est-ce que ça s'aggrave ou est-ce que ça se stabilise ?
Hua Wang, habitant de Pékin, capitale, bouclé ce matin par peur d'une recrudescence du virus. La situation sanitaire en France est heureusement beaucoup plus rassurante. Hier, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, a défendu devant la commission d'enquête de l'Assemblée la gestion des autorités. 3 mois de chaos sanitaire, pourtant le maximum a été fait, assure-t-il, face à cette crise mondiale et brutale. Personne ne pourra se targuer d'avoir été prêt. Elle va, une fois encore, certainement faire hurler les conducteurs, mais ses électeurs à elle, ce matin, sont ravis. Anne Hidalgo envisage de transformer radicalement le périphérique en baissant la vitesse de 70 à 50 km/h, en y installant des feux rouges, des passages piétons, des pistes cyclables et même des arbres. Une aberration pour ces taxis parisiens. Reportage Éric Vanier.
Brahim, au volant de son taxi, est incrédule quand on lui annonce le projet.
Sur le périph, 50 km/h, j'imagine pas ça, voilà. Ça sera pas respecté, c'est sûr et certain, parce que les gens, déjà actuellement, à 70, déjà, on sent qu'on roule vraiment pas. Une autoroute à 50, ça n'existe pas, quoi.
Même tonalité chez ses collègues.
On roule en vélo, quoi. Dans ce cas-là, interdit les véhicules carrément.
Escargot, monsieur, ouais. Ça doit être très, très difficile.
Je peux comprendre à Paris, oui, mais sous le périphérique, vous trouvez pas ça un peu nul? Nous, de toute façon, quand ils veulent embêter, c'est les taxis, vous voyez. Ils veulent pas qu'on travaille.
Selon la mairie de Paris, les 50 km/h réduiraient la pollution, les nuisances sonores et le nombre d'accidents. Mais Brahim avance un contre-argument.
Si on roule à 50 km/h, on perd beaucoup de temps sur le périph. Le client, ça va lui coûter plus cher. Le tarif, il va augmenter. C'est pas bon pour le client.
En cherchant bien, j'ai quand même trouvé un chauffeur de taxi pas hostile à la mesure. Jean, 33 ans de métier.
De manière, on roule pas à plus de 50, donc ça me dérange pas. Tout le monde va gueuler, mais au final, ça changera pas grand-chose. Allez, c'est 5 minutes de plus, pas plus.
en cherchant bien.
En cherchant bien.
Reportage signé Éric Vanier.
Le calme enfin à Dijon après 4 nuits d'affrontements entre communautés. Pour autant, demeurent les questions, la crainte et vous allez l'entendre, l'amertume. C'est dans un instant.
La perte et la différence. RTL Matin.
8h08, la suite du journal de Dominique Tenza. Alors fallait-il intervenir plus tôt et de manière plus musclée à Dijon après les nuits de violence qui ont laissé les habitants de cette ville plutôt tranquilles sous le choc?
Les pouvoirs publics en tout cas se défendent de tout laxisme alors que les affrontements entre Tchétchènes et jeunes du quartier sensible des Grésilles ont démarré vendredi soir et que beaucoup s'interrogent sur l'inaction des forces de sécurité les premières nuits, notamment sur place à Dijon où vous êtes pour RTL, Sinamir, avec cette cruelle impression d'être laissé pour compte. Vous avez pu vous entretenir avec certains habitants.
Après quelques heures de répit, oui, et le survol encore cette nuit d'un hélicoptère sur l'agglomération dijonnaise, la chaussée a été déjà refaite à l'endroit où des voitures avaient été brûlées. Soulagement donc dans ce quartier, mais une certaine colère aussi des habitants contre la préfecture, contre l'État, qu'ils accusent, comme Karim, d'avoir abandonné le quartier pendant plusieurs jours.
Moi, j'ai eu peur pour mes enfants, j'ai eu peur pour ma famille. Aujourd'hui, on va créer un collectif, on va faire un dépôt de plainte commun contre le préfet pour non-assistance en personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui. Pourquoi? Comment ça se fait que ça a duré 3 jours?
Une question de discernement face à des groupes lourdement armés, ont expliqué le préfet et Laurent Nunez en visite hier à Dijon. Le secrétaire d'État qui n'a finalement pas fait le déplacement au Grésil, ce qui a attiré l'attention de Malik et ses amis. Tous ont grandi ici.
Aujourd'hui, on se sent un peu plus en sécurité parce qu'il y a monsieur le maire qui vient, parce que voilà, donc ils sont bien obligés de ramener les forces. Voilà, nous on y vit ici. On pense pas si c'est assez sécurisé pour mes enfants à moi.
Une colère doublée d'un regret, celui d'avoir vu virer une simple bagarre en une question communautaire en 72 heures. Rivalité inexistante dans ce quartier selon tous ses habitants.
Un reportage de Sinamir. La colère ce matin des soignants écœurés de s'être fait voler leur manifestation hier par des casseurs. Une fois encore, des militants d'extrême gauche ultra-violents ont parvenu à infiltrer le cortège parisien pour affronter les forces de l'ordre, brûler des voitures et casser du mobilier urbain. 32 personnes interpellées. Ailleurs en France, des dizaines de milliers de soignants ont défilé, cette fois dans le calme.
8h10, dans la bataille qui fait rage entre carnivores et vegan, les premiers viennent de marquer un point et un gros point d'ailleurs.
Ne dites plus steak de tofu non. Ou saucisse de soja.
Non plus.
Les imitations végétales de viande ne pourront plus porter les mentions steak, saucisse ou escalope. La viande, c'est la viande. Elle est d'origine animale. La filière milite depuis des années pour éviter d'entretenir cette confusion. Les véganes n'ont plus qu'à se creuser la cervelle. Cervelle aussi, c'est interdit. Et puisqu'on parle de nourriture, les amateurs de vraie cuisine ne peuvent pas manquer ce soir la grande finale de Top Chef, l'émission phare d'M6 qui cette année bat des records d'audience. 11e saison déjà, 4 millions de téléspectateurs en moyenne chaque semaine. Et un programme qui a changé en une décennie la vision que les Français ont de la cuisine. Et c'est sans doute l'une des plus grandes fiertés du présentateur de l'émission, Stéphane Rothenberg. Écoutez-le.
Le grand plaisir que j'ai, c'est quand des directeurs de lycées hôteliers m'appellent pour venir remettre des prix ou faire des concours internes. Et qu'ils me disent que leur lycée, leurs écoles hôtelières sont pleins, que les mômes sont fiers de dire qu'ils sont... alors que avant, c'était, voilà, c'était le CAP cuisine, c'était pas la voie royale. Hein, mais qu'aujourd'hui, les mômes sont contents de dire en famille, ben voilà, moi, je veux être cuisinier, je fais le CAP cuisine. On a contribué à notre manière à mettre un coup de projecteur, voir à quel point on travaille, à quel point c'est dur, à quel point c'est l'excellence. La vraie récompense de Top Chef, c'est qu'aujourd'hui, c'est une émission qui joue son rôle dans la valorisation de la gastronomie à tous les niveaux, et de la cuisine.
Les gars, on relâche pas l'air.
Tout est calé, tout est bien organisé, il est carré, David, ça se voit et ça se goûte.
Un Top Chef, œuvre d'utilité publique. Stéphane Rothenberg était interrogé par Laurent Marcy. Qui l'emportera d'Adrien ou de David pour les connaisseurs?
Rendez-vous 21h ce soir.
À 21h. Pour terminer, ce journal livre cette voix qui vous est forcément familière.
Salut, Mickey O'Brien, sécurité de l'Aqueduc. On nous a signalé qu'un type était entré dans le tunnel sur un traîneau tiré par des.
Cette voix, c'est celle de Bruce Willis, enfin celle de son double français, Patrick Poivet, inimitable voix si particulière, qui a sans doute en France contribué au succès de l'acteur américain. Il nous a quittés hier à 72 ans. Être la voix de Bruce Willis, c'est parfois assez cocasse. Écoutez-le raconter cette anecdote, c'était sur RTL.
Quand vous rentrez dans un restaurant, avec des amis que vous allez dîner, et vous commandez le menu, et les gens tournent la tête, évidemment, pour regarder quelle est cette voix, et ils retournent la tête en disant non, c'est pas lui.
Voilà.
Ah, formidable.
Patrick Poivet, donc, qui a donné sa voix à Bruce Willis,
et qui avait 72 ans. Ses émotions, bien entendu. C'était le journal de Dominique Tenza.
RTL Matin, Yves Calvi.
Et c'est bien entendu l'heure, à 8h12, de retrouver l'un de nos correspondants pour découvrir une destination de vacances en France, direction la Côte d'Opale, dans le village d'Audressel, près de Boulogne-sur-Mer. Bonjour Franck Hanson.
Bonjour.
C'est un petit village de pêcheurs au charme sauvage et très naturel.
Oui, bienvenue au pays des flobards, ces bateaux traditionnels en bois à la forme ventrue sur cette côte rocheuse face à la Manche. Audressel a su en effet conserver une certaine ambiance authentique près du Cap Griné. Dans le village, les rues sont bordées de maisons basses aux volets colorés et sur la plage de Galet, Vincent Bastien, le directeur du grand site des deux caps, nous attend sur le sentier des pêcheurs.
C'est ce qu'on appelle la plage d'Audressel, plage quand même très rocailleuse et qui a juste une petite partie ensablée. Donc c'est vraiment traditionnellement un village de pêcheurs que l'on retrouve d'ailleurs tout au long de sa balade dans Audressel, l'architecture, petite maison basse. Ici le dress code c'est le volet bleu. Hein. Et on arrive sur la place qui est très accueillante avec 4 ou 5 restaurants. Vous avez toute la variété des moules frites. C'est le cœur du village, c'est là où a lieu chaque année la fête du crabe.
Au loin, on aperçoit les côtes anglaises. Ici, il n'y a pas de port. Les bateaux sont directement descendus sur la plage avec des tracteurs.
Ah bah alors justement, il y a encore beaucoup de pêcheurs traditionnels dans le secteur d'Audressel.
Oui, hein, Yves, des amateurs qui côtoient les professionnels boulonnais. Et sur cette côte, on croise encore quelques dizaines de pêcheurs à pied qui ramassent coquillages et moules. Hugues Sellier, une figure du coin, a démarré tout petit.
On va ramasser les moules, on gratte au râteau. Moi, je pense que c'est, sans être chauvin, les meilleurs. Moi, des fois, on a un petit problème avec des crabes dedans, mais sinon, en chair, je pense que c'est les meilleurs. Il y a des plages de sable, mais beaucoup de rochers, et je crois que c'est ce qui fait la beauté de la côte, quoi. Toujours à la mer, on respire l'air pur. Tous les gens, ils descendent avec leur petit bateau, puis leur tracteur. Ça a toujours existé, les flobards. Hein. Les anciens pêcheurs, maintenant, ils sont en Boulogne avec des plus gros bateaux. Mais tous les flobards ont été rachetés par des plaisanciers.
Et sur la pointe nord, en passant par le Blocos, vestige de la dernière guerre, transformé en chambre d'hôte, un panorama unique s'offre à nous, vers le large. Un bac à marée pour ramasser les déchets est à l'entrée de la plage. L'horizon est dégagé, reste à profiter des embruns.
La chance ici, c'est que depuis l'après-guerre, les habitants, les élus locaux ont pris le parti de sauvegarder et de préserver ces entités paysagères de la côte, de la dune. On vient rechercher à Audressel cette ambiance familiale, rustique, enfin, en tout cas pas bétonnée, pas artificielle.
Un coin charmant donc pour apprécier une moule frite, des fruits de mer, une bière de pays. Et nos voisins belges, dont les frontières viennent de rouvrir, sont déjà de retour.
Et j'ai bien compris, le Blocos a été transformé en hôtel, hein, vous nous le confirmez?
Tout à fait, en gîte chambre d'hôte.
Merci beaucoup Franck Hanson, on retrouve dans quelques instants Michel Simès. Mais surtout tout de suite, notre Louis Baudin, on était un petit peu pressé par l'actualité. Cher
merci
Louis,
vous.
Merci. Quel temps sur la côte d'Opale puisqu'on s'y trouve?
Ah ben là, en ce moment, il y a un petit voile nuageux. Il fait 15 degrés déjà, donc c'est pas désagréable. Mais comme dans beaucoup d'autres régions, c'est vrai qu'il y aura encore une menace d'averse, notamment cet après-midi sur cette côte d'Opale. Ce risque d'averse, d'ailleurs, on le retrouvera dans toutes les régions, beaucoup plus déjà dans le nord-est où elles resteront tout au long de la journée. Ces averses seront parfois accompagnées d'orages. Et au milieu de cette activité, il y aura quand même quelques belles éclaircies, des éclaircies qui domineront largement près de la Méditerranée avec toujours l'aide du vent, puis les températures. Encore pas de saison, ça va venir. C'est pour la fin de semaine, 17 à 22 degrés en général cet après-midi, 24 à 26 près de la Méditerranée.
Merci de votre patience, Louis. À tout de suite avec Michel.